BPM, élection municipale 2020.
Bonjour et bienvenue sur BPM, si vous venez de nous rejoindre. Le deuxième tour des élections municipales aura lieu dimanche. À cette occasion, BPM vous propose jusqu'à vendredi des émissions spéciales. Les candidats pour les villes de Limay et Mantes-la-Ville viendront répondre à nos questions. Et nous recevons aujourd'hui Brahim Saed, de la membre de la liste Un nouveau souffle pour Limay, mené par Mickaël Boutry. Brahim Saed, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ce matin?
Ça va super.
Vous avez 34 ans, vous êtes ingénieur chimiste, vous êtes cinquième sur la liste. Alors on rappelle les scores du premier tour. Éric Rouleau arrive premier avec 33,30%, Cécile Dumoulin deuxième avec 29,28%, et votre liste, celle menée par Mickaël Boutry, arrive troisième avec 26,31%, et quatrième Sébastien Duprat avec 11,01%. Votre liste est donc arrivée troisième. Êtes-vous satisfait de ce score?
Oui, bien sûr, on est satisfait. Beaucoup de gens ne nous attendaient pas à ce niveau-là. Beaucoup pensaient que notre liste ne marquerait pas les esprits. Et aujourd'hui, avec près de 1000 personnes qui ont voté pour nous, ils se sont rendus compte que les gens ont jugé que notre projet était cohérent. Avec un écart avec Madame Dumoulin ou Monsieur Rouleau d'une centaine et de 200, un peu plus de 200 voix avec le premier Monsieur Rouleau, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, au vu des résultats des années précédentes, en tout cas 2014, pour M. Rouleau, c'est une claque aussi, par rapport à ce score, au score qu'il avait fait précédemment, et que notre projet est jugé crédible par les gens. Et c'est pour ça qu'on a décidé de continuer, parce qu'aujourd'hui, les gens ont saisi qu'on était une vraie alternative pour la ville de Limay, et qu'on avait un projet à porter qui pouvait aider le quotidien des Liméens.
Alors l'entre-deux-tours a été le témoin de fusion entre Cécile Dumoulin, la liste de Cécile Dumoulin et la liste de Sébastien Duprat. Éric Rouleau vous a proposé de fusionner pour faire l'union de toutes les forces de gauche, hein, je cite, une proposition que votre liste a refusée. Pourquoi?
Alors déjà, pour commencer avec la fusion de Madame Dumoulin et de Monsieur Duprat, bon, on voit bien que c'est le type de manœuvre politicienne entre les deux tours que les gens rejettent aujourd'hui, et que c'est vraiment pour la recherche de place et pas pour l'objectif collectif que ce genre de fusion se font. Donc nous, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans cet objectif-là, nous, on est vraiment là pour le bien commun. Et donc, c'est poser la question, effectivement, d'une fusion. Monsieur Rouleau, à aucun moment, n'a contacté directement ça, faut le savoir, il faut que les Liméens l'entendent. Parce que ça n'a pas été dit. Monsieur Rouleau, directement, n'a jamais appelé ni les collectifs, ni Monsieur Boutry.
Il a fait une lettre ouverte, il me semble.
Une lettre ouverte, mais moi, personnellement, tout simplement, quand je veux contacter quelqu'un, je prends mon téléphone, je l'appelle ou je vais le voir, surtout quand on habite la même ville. Mais apparemment, Monsieur Rouleau n'avait pas le temps, ou en tout cas, voulait peut-être pas se rabaisser à ça. Derrière, ça fait depuis le début du premier tour, en tout cas depuis le début de l'élection, on a bien vu qu'il y a une main tendue, il n'y avait pas, qu'ils n'ont pas cherché à venir vers nous, même avant, parce qu'ils disent qu'il y a déjà précédemment, ils avaient tenté un rassemblement, mais depuis qu'il est en place, Monsieur Rouleau a vu les forces de son équipe s'effriter et des gens quitter ses équipes, soit par volonté, soit parce qu'il les a virés, comme ça s'est passé avec certains de nos colistiers. Et quand on veut rassembler les gens, déjà on commence par leur dire bonjour quand on travaille avec eux, ce qui n'était pas le cas avec Monsieur Boutry et Madame Saint-Amo. Donc aujourd'hui, de ce point de vue-là, déjà d'un point de vue comportement, il n'y avait pas de fusion possible, et d'un point de vue cohérence de projet aussi, on n'est pas d'accord sur le fond. On n'est pas d'accord sur le fond, sur des projets que Monsieur Rouleau veut mettre en place, notamment le projet du centre-ville, où les habitants n'ont pas été concertés. Nous, c'est des projets sur lesquels on n'est pas d'accord, sur la construction encore de logements, alors que nos classes sont surchargées, alors que les équipements ne sont pas adaptés pour accueillir des gens. Monsieur Rouleau veut continuer à construire. Et là-dessus, c'est un point de désaccord majeur. Donc, être cohérent, c'était soit arrêter, parce qu'on jugeait que notre projet n'était pas jugé crédible par les électeurs, soit continuer. Et au vu du nombre de voix qu'on a recueillies et de l'écart faible entre les différentes listes, on a décidé de continuer.
Alors, concernant la tenue de ce deuxième tour, selon vous, les conditions sanitaires sont-elles appropriées ce dimanche?
Je pense que...
Parce que c'est un deuxième tour un peu spécial.
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est assez spécial. Le premier tour l'était également. La municipalité et les équipes vont faire le maximum, comme le font à chaque fois. Parce que la mairie, c'est pas qu'un maire, c'est surtout des services. Et ces gens-là, bah, généralement, ils sont au rendez-vous et je leur fais entièrement confiance pour mettre en place des conditions. J'étais assesseur au premier tour. J'ai vu que des choses avaient été mises en place. Je ne me fais pas de soucis de ce point de vue-là. Après, il faut que chacun respecte les conditions sanitaires pour que tout se passe bien.
Alors justement, en parlant de déconfinement, qu'est-ce que vous pensez de la politique de la municipalité ?
Bah sur la gestion de la crise, il y a eu des masques qui ont été distribués, on l'a bien vu, hein, des masques qui ont été distribués à chaque fois avec la photo du maire, donc il a allié à la fois gestion de la crise mais également campagne électorale. Hein. C'est bien qu'ils ont, on va pas non plus critiquer tout le temps, c'est bien qu'ils aient distribué des masques. Après, est-ce qu'on aurait pu faire plus, notamment en intégrant l'ensemble des équipes de la municipalité ou peut-être en travaillant plus en concertation avec les parents d'élèves notamment, parce que jusque-là, les échos qu'on a, et en tout cas les personnes qui sont aussi parents d'élèves dans notre liste, ont bien remarqué qu'ils étaient informés, mais pas consultés. Que lorsqu'ils étaient informés, les décisions étaient déjà prises.
Oui, parce qu'Éric Rouleau n'a pas rouvert les écoles tout de suite, il a attendu le 2 juin pour la réouverture. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? C'était une bonne date, une mauvaise date ?
Bah, le fait d'attendre, si les conditions sanitaires n'étaient pas réunies, c'était une bonne chose. Il a pris la bonne décision. Faut mettre d'abord en avant la sécurité du personnel, des instituteurs, des professeurs, mais aussi des enfants. Donc, si les conditions n'étaient pas réunies pour la réouverture, fallait pas ouvrir. Donc cette décision, je pense, était la bonne à ce moment-là.
Et hier, justement, c'était la réouverture de toutes les écoles, de toutes les crèches, de tous les collèges. Les conditions pour vous, elles sont réunies aujourd'hui ?
Aujourd'hui, clairement, c'est très difficile. C'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement a décidé d'assouplir ces conditions. Vu la surcharge qu'il peut y avoir dans les classes, notamment chez les petits, chez les enfants de 4-5 ans, des classes de plus de 30 élèves avec un professeur et souvent... peu d'ATSEM. Moi, j'ai connu des classes où ma fille était, où il y avait une demi-ATSEM pour 30 élèves de moins de 5 ans. Gérer des conditions sanitaires, si vous allez parler avec le professeur, vous allez bien voir qu'aujourd'hui, le projet pédagogique, il n'y en a plus. C'est juste de la gestion de propreté, quoi, pour éviter que le virus se répand. Donc, d'un point de vue pédagogique, et si l'objectif de la réouverture était de réduire les écarts, les inégalités par rapport à l'accès à l'éducation, moi, je pense que c'est pas ce mois-là et en tout cas ces conditions-là qui vont le permettre.
Alors, un deuxième point lié à cette crise, on va bientôt le voir, hein, c'est l'économie. Renault Flins, une usine très connue hein, dans le Mantois, où beaucoup de gens travaillent, veut passer de 2600 à 1600 salariés, arrêter de construire des voitures et faire autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Aujourd'hui, forcément, on voit bien que ça va avoir des impacts économiques. C'est 2 mois d'arrêt. On va être tous touchés. Moi, dans mon entreprise, on est touché aussi. J'ai fait du chômage partiel également. Sur Renault Flins, bah, effectivement, c'est énorme, quoi. Près de la moitié des gens qui vont être mis à la porte ou à qui on va demander d'aller à l'autre bout de Paris pour travailler. Donc, ça revient à peu près à la même chose. Aujourd'hui, le gouvernement fait en sorte de donner l'accès à des prêts garantis. La BCE également, pour que ces entreprises-là ne ferment pas, justement. Mais ces prêts doivent être aussi liés à des conditions au niveau de l'emploi et du maintien de l'emploi. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on prête plusieurs milliards à Renault et que derrière, on autorise à ce qu'ils réduisent le personnel de près de la moitié. C'est impensable. Donc là-dessus, il va falloir se battre notamment au niveau de la communauté des communes, parce que c'est là que ça va jouer aussi. C'est là que la municipalité Limen en tout cas a un rôle à jouer. Il va falloir que tous les élus fassent front pour éviter que les emplois partent.
Alors on va revenir sur les points forts de votre programme. Michael Boutrys, il est élu, il s'engage à un mandat de concertation avec les citoyens. Vous parlez notamment de référendum d'initiative citoyenne, de budget participatif, de conseil de quartier. Alors ça va s'articuler comment ? Vous allez demander l'avis à tout le monde pour tout ou sur des sujets particuliers ? Comment ça va se...
Bah déjà, la démocratie participative, effectivement, c'est un peu un terme un peu galvaudé, mais aujourd'hui, on voit bien que... Enfin, nous, en tout cas, on l'a vécu durant ces 15 mois dans notre liste. À la base, on peut se dire que justement, ça va partir dans tous les sens, que ça va être dur de prendre des décisions, mais au final, on se rend bien compte que... En tout cas, nous, on s'est rendu compte que ça nous a permis de sortir un projet cohérent sur lequel tout le monde se retrouve et que les gens, quand ils se sentent écoutés, ils font des propositions et eux-mêmes, et voilà, ça n'empêche pas le dialogue. Et au contraire, c'est quand on n'est pas d'accord qu'on arrive à pondre, pour moi, les meilleures solutions. Et aujourd'hui, bah, l'idée, ça va être d'être proche du terrain, quoi, d'aller voir les gens, et pas que pendant les élections municipales, d'être sur le terrain.
Sur quel sujet, par exemple ?
Bah, par exemple, le projet du centre-ville, un projet comme ça, on ne peut pas faire un projet comme ça qui va impacter sur tous les habitants du centre-ville, qui va impacter les commerçants, sans interroger les gens et juste en les informant. Ce n'est pas possible. Monsieur Rouleau veut faire aussi une piscine. Faut que les gens sachent aussi le coût de projets comme ça.
C'est pas la GPSO qui va gérer la piscine.
C'est choses qui se feront pas. On voit bien aujourd'hui au niveau de la gestion du coût déjà du moyen, ensuite de l'entretien. Aujourd'hui, avec les équipements présents, on voit bien avec l'aqualude qui a été fermée pendant plusieurs mois, le coût exorbitant que ça
entraîne. Il y a eu quelques petits soucis de travaux, on va dire.
Derrière, il y a déjà des équipements. On a Porcheville, on a Mantes-la-Ville, on a Mantes-la-Jolie. À moins de 5 km, il y a déjà 3 équipements. Donc, au vu des finances aujourd'hui, où Madame Dumoulin comme Monsieur Rouleau disent que les finances de la ville sont en berne et qu'il va falloir faire attention à quel projet on met en avant, dire qu'on veut faire une piscine municipale à des prix exorbitants, c'est pas forcément la priorité.
Mais la piscine, je répète ma question, elle est pas gérée par la GPSO ? Vous avez pas des subventions, etc. Parce que Aqualude, je crois que c'est la GPSO hein, qui gère la piscine, il me semble. Mais
pas forcément. Il y aurait aussi la municipalité qui aura
sa part. Après, Porcheville, c'est encore si c'est passé.
La municipalité aura aussi sa part. Et si on veut maintenir aussi l'emploi, aujourd'hui, l'endroit qui a été jugé crédible pour installer la piscine, c'est l'endroit où il y a le restaurant La Marmite. Donc les gens connaissent bien. Qui est un restaurant qui fonctionne bien. Donc aujourd'hui, on dit qu'on veut préserver, qu'on veut créer de l'emploi sur l'IME. C'est très bien. Mais déjà, il faudra préserver l'emploi qu'il y a, donc l'emploi des commerces en centre-ville, l'emploi d'un restaurant qui fonctionne très bien. Si on commence à détruire ce qui marche pour créer quelque chose de nouveau, c'est pas cohérent. Il faut quand même qu'on maintienne ça. Et aujourd'hui, effectivement, les finances vont être durement touchées aussi par la crise, les finances des villes également. Et mettre en place des projets comme ça, comme le projet de police municipale de Madame Dumoulin, qui quand on va rechercher, parce que nous, on n'avait pas une position idéologique, pour dire, nous, on ne veut pas de police municipale. On est allé voir aussi, on se pose la question. Quand les gens font des propositions comme ça, on se pose la question. Et aujourd'hui, quand on voit les coûts d'entretien, les coûts des salaires pour des villes similaires à la nôtre, c'est quasiment 500 000 d'euros qu'il faudrait pour mettre en place une police municipale, sachant qu'on a déjà des agents en place. On a peut-être d'autres actions qui seraient aussi efficaces et qui sont pas utilisés actuellement.
Ah bah justement, vous parlez d'argent. Michaël Boutry, dans sa lettre de candidature, regrette l'augmentation des impôts. Alors, qu'est-ce que vous allez faire du côté des impôts, vous ? Parce que là, ils ont augmenté à l'IME.
Effectivement, déjà, on ne fera pas de promesses qu'on ne tiendra pas. Donc, à partir du moment où on n'a pas forcément toutes les données, donc il faudra faire un audit financier lorsqu'on accédera à la direction de la mairie. Et donc, à partir de là, on pourra aussi voir ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Mais en tout cas, on ne s'engagera pas à faire des promesses aux gens qu'on ne pourra peut-être pas tenir.
Donc, aujourd'hui, vous savez pas si vous allez augmenter les impôts, les baisser ou quoi que ce soit.
Bien sûr, l'idée, si on.
Je vous pose la question.
L'idée globale, si on peut, c'est de pas augmenter les impôts. Mais après, avant de dire, on va mettre en place tel ou tel projet, on va faire telle ou telle action, faut avoir tous les facteurs qui permettent de dire quelle est la meilleure décision. Et dans tous les cas, cette décision, elle sera faite en concertation également avec les habitants. On leur donnera les éléments.
Je pense que si vous demandez aux Liméens, est-ce que vous voulez augmenter les impôts, ils vont dire non. Hein. Après.
Après, il y aura toutes nos propositions, en tout cas, seront faites de manière à ce que les gens puissent avoir les informations en toute transparence, qu'on leur donne accès à toutes les informations qui permettent derrière de comprendre les décisions et surtout de participer aux choix qui seront faits pour leur ville.
Alors, justement, depuis tout à l'heure, vous parlez du centre-ville. Quel est votre projet, justement, pour ce centre-ville
de l'IME ? Déjà, de ne pas faire de logement, de ne pas faire de construction massive de logement avec 0,5 place par habitant. Aujourd'hui, ben, les gens qui utilisent, en tout cas qui accèdent au centre-ville, voient bien que c'est difficile déjà de s'arrêter, de se garer. Pour les commerçants, bah forcément, c'est pas les meilleures conditions possibles pour pouvoir attirer la clientèle. Et on veut rajouter des logements dans cette zone-là. C'est pas cohérent. Si on veut construire un projet avec le commerçant, déjà, faudra consulter soit les commerçants et les habitants, et ensuite faire en sorte qu'il y ait une vraie dynamique et pas des logements. Aujourd'hui, les logements, ça vient rajouter dans l'espace urbain de la bétonisation. Et c'est pas ça qui va relancer le commerce liméen, et surtout avec un encombrement dans la zone qui fera que les gens peuvent pas stationner.
Alors, un autre sujet important, la désertification médicale dans le Mantois et partout en France. Vous souhaitez créer un centre de santé municipal.
Oui, c'est ça, parce que il y a un réel besoin. Il y a un réel besoin. Donc, l'idée, c'est d'avoir un centre qui sera géré par la municipalité, où les professionnels de santé seront salariés, ce qui permettra à la municipalité d'avoir la main sur la gestion de la municipalité, toujours en partenariat aussi avec la communauté urbaine, avec l'hôpital de Mantes, pour aussi obtenir des subventions, pour se faire financer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du projet du maire actuel, et aussi dégager du temps au personnel médical en leur mettant à disposition du personnel administratif pour que ces personnes-là puissent se concentrer sur leur métier et sur le traitement de leurs patients.
Alors, cette maison médicale, c'est dans les 6 ans à venir qu'elle sera construite ?
Toujours la même chose, va falloir voir avec les finances de la ville ce qui est possible de faire. Bien sûr, c'est un besoin urgent, ça fait partie des priorités. Aujourd'hui, l'accès à un médecin, moi-même actuellement, je n'ai pas de médecin traitant. Parce qu'on n'arrive plus à en trouver. Donc je suis le premier concerné par ce besoin-là. J'ai des enfants, donc j'ai besoin aussi qu'ils accèdent à un médecin quand ils sont malades. Donc nous, on vit à Limay. On utilise les équipements de Limay, et donc ce besoin-là, on l'a également. Donc on va faire en sorte de toutes nos forces, si on est élu, que ce soit mis en place le plus rapidement possible.
Il nous reste 4 minutes, on va parler intergénérationnel. On va commencer par les enfants. En ce qui concerne l'éducation, quel est votre programme ?
Sur l'intergénérationnel, ce qu'on souhaitait faire, et ça rejoint un peu la question que vous m'avez posée sur le centre-ville, c'est la mise en place d'un tiers-lieu qui permettra de réunir les associations, un lieu d'échange entre les associations de
une
jeunes
maison des associations,
et de moins jeunes. Alors l'idée d'un tiers-lieu, c'est d'avoir à la fois des lieux pour les associations, un lieu où on peut avoir des conférences sur différents sujets, un lieu où on va pouvoir mettre en place une ressourcerie pour réparer tout le matériel, pour éviter de jeter des déchets et plutôt réparer. J'ai mon lave-vaisselle qui est tombé en panne pendant le confinement. J'étais bien content d'essayer de trouver de comment le réparer avec des vidéos sur YouTube. Et c'est des choses qui sont faisables. Et des fois, on a besoin d'un petit coup de main parce qu'on n'est pas forcément spécialiste. Et y a les anciens qui peuvent nous aider. Ça permet de faire des liens intergénérationnels et d'avoir un lieu comme ça où les gens se rencontrent et où aussi peut-être on mettra à disposition des lieux pour que les jeunes puissent se retrouver. Ça peut être quelque chose qui relancera aussi une dynamique au niveau du centre-ville.
Parce que vous voulez que les jeunes participent plus à l'avenir de Limay ?
Bien sûr. Si on ne mise pas sur notre jeunesse, franchement, on tend à s'arrêter tout de suite. C'est la jeunesse qui derrière tient les clés de la ville. Et aujourd'hui, si on ne mise pas sur eux, si on ne leur donne pas les moyens de s'épanouir au maximum dans notre ville et de pouvoir peut-être y rester pour se créer aussi de l'emploi local pour que les gens puissent rester. Parce qu'un des points aussi sur la transition écologique, c'est qui fera la différence pour décarboner notamment les déplacements, c'est de faire en sorte que les déplacements soient le moins long possible. Et de réussir à garder nos jeunes, de réussir à les former, à leur proposer autre chose, aussi à leur montrer qu'il y a des perspectives autres que de traîner dehors, qu'on peut leur proposer d'autres choses, que les gens se plaignent des fois de ça. Mais aujourd'hui, les jeunes, il faut leur proposer des choses aussi pour leur donner d'autres perspectives et faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir. Et il faut qu'on mise sur la jeunesse, ça c'est primordial.
Et une minute sur les écoles. Alors, est-ce que les écoles, dans les écoles primaires, normalement qui est une compétence de la ville, est-ce que ça se passe bien actuellement ?
Sur les écoles primaires, on va revenir un peu parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la transition écologique. Moi, là-dessus, c'est quelque chose qui me tenait à cœur quand je suis arrivé à Limay et que j'ai mis ma fille à l'école Maurice Quatier. Ce qui m'a frappé, c'est que l'école était. Monsieur le maire se targue de la qualité de son école, mais aujourd'hui, l'école est toute bétonnée. Et là, dans quelques jours, il va faire 32 degrés avec des baies vitrées. Je m'imagine pas les conditions dans lesquelles vont être accueillis les enfants. Donc aujourd'hui, on parle d'installer 3000 arbres, mais il faudra déjà commencer par verdir nos écoles.
Et les ADSEM peut-être ?
Et les ADSEM également. Aujourd'hui, faut absolument déjà qu'il y ait un lien constant entre la mairie et les écoles. Maurice Quétier est un exemple. À l'installation de Maurice Quétier, à l'ouverture des classes, le personnel n'avait pas de matériel. Les professeurs, les instituteurs se sont débrouillés pour obtenir des meubles, du mobilier pour pouvoir ouvrir les classes. C'est incroyable de dire ça quand on vous dit ça. Moi, j'étais, en tant que parent d'élève, je suis tombé des nues. Donc aujourd'hui, il faut donner les moyens à une classe qui s'ouvre, notamment une école qui s'ouvre, c'est refaire ce qui a été fait par le passé, c'est doubler le budget lors de la première année pour que les gens puissent, que les professeurs et le personnel éducatif puissent acheter de l'immobilier, ce qui n'a pas été fait pour cette école-là, et ce qui a été, heureusement qu'il y avait le personnel éducatif qui a rattrapé, et par la solidarité entre les écoles, a permis l'ouverture dans des conditions à minima bonnes pour les élèves. Mais aujourd'hui, faut mettre les moyens sur notre jeunesse, et mettre les moyens sur notre jeunesse, c'est pas juste des mots, c'est agir. Et il faut que les gens voient plus les actes que les paroles, et les actes parlent d'eux-mêmes.
Brahim Saïd, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Cette émission sera rediffusée à 18h. Retrouvez tous les podcasts de cette émission sur le www.bpmlaradio.com. Demain matin, à 8h30, nous recevrons Cécile Dumoulin. Cette émission, je vous le disais, sera rediffusée à midi et 18h. Excellente journée à l'écoute de BPM.
BPM, élection municipale 2020.